France Inter.
Aujourd'hui, biodiversité, histoire d'une crise, racontée par
Philippe Rancola, écologue et directeur de recherche au CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il fut un temps où prendre la route, surtout l'été, signifiait revenir avec un pare-brise constellé de traces brunes et jaunes. Les enfants des années 70 s'en souviennent, on roulait quelques kilomètres à peine et déjà il fallait dégainer l'éponge pour retrouver un minimum de visibilité. C'était agaçant, oui, mais c'était aussi le signe d'une nature débordante, de millions de petites ailes qui traversaient nos phares. Aujourd'hui, fini la corvée, on peut filer sur l'autoroute, traverser les campagnes entières, garder une vitre impeccable. Alors un confort, pas vraiment, plutôt le symptôme discret d'un monde qui s'éteint à petit feu. Les scientifiques ont donné un nom à ce phénomène, l'effet pare-brise, une drôle d'expression pour parler d'une réalité très sérieuse. En avril dernier, l'association britannique Kent Wildlife Trust révélait les résultats d'une enquête participative Bugs Matter. Verdict, en 3 ans seulement, entre 2021 et 2024, la population d'insectes volants au Royaume-Uni aurait chuté de 63%. Le protocole était presque ludique. Avant de partir, les volontaires devaient nettoyer leur plaque d'immatriculation, activer une application qui enregistrait leur trajet, puis envoyer une photo de la plaque une fois arrivée et l'on comptait le nombre de petites taches laissées par les insectes. Moins il y avait de taches, moins il y avait de bestioles dans l'air. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'air s'est vidé. Certains avancent une explication technique, les voitures d'aujourd'hui sont plus profilées, plus glissantes, elles attraperaient moins d'insectes. Mais la constance des données et leur brutalité dessinent un tableau clair, le déclin est bel et bien réel. Or, les insectes ne sont pas des figurants, ils pollinisent, nourrissent d'autres espèces, entretiennent les sols. Sans eux, c'est toute la mécanique du vivant qui se grippe. L'effet pare-brise n'est pas seulement une anecdote de conducteur nostalgique, il est le miroir d'un phénomène bien plus vaste. Car ce qui se joue là n'est qu'un chapitre de la crise mondiale de la biodiversité, où oiseaux, poissons, mammifères et plantes suivent le même chemin silencieux. Nos pare-brises propres nous disent à leur façon le grand effacement du vivant. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Philippe Grandcola.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Talendier « La biodiversité, urgence, planète, notre monde vivant en danger, expliqué à tous ». Comment allez-vous en tant qu'écologue? Ça va le moral?
Bah écoutez, le moral est un peu plombé, hein, parce que non seulement je suis témoin à titre personnel sur le terrain quand je travaille en forêt tropicale ou dans des savanes depuis quelques décennies du déclin dont on vient de parler, mais en plus à force de l'expliquer à tout un chacun et puis quelquefois à des décideurs un peu sourds d'oreille, ça rend quelquefois un peu la vie moins agréable au quotidien.
Est-ce que quand même vous avez des publics attentifs de temps en temps?
Alors oui, effectivement, heureusement, on sent que au-delà des clivages quelquefois un peu trop affichés dans cercle politique, on a vraiment une préoccupation, je pense, de la plupart des Français notamment, hein, sur ces questions-là. La biodiversité, c'est agréable, on en a envie, même si quelquefois, voilà, on veut des pollinisateurs, on n'a pas envie d'avoir des moustiques dans la chambre à coucher, mais néanmoins, on comprend bien qu'on a besoin de plantes, d'animaux pour vivre, et même aujourd'hui des étudiants d'écoles prestigieuses, je les sens quand je fais des cours vraiment très assidus à ces questions-là, ils comprennent que c'est leur monde, le monde de demain, hein, le monde de leur vie de trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire qui se joue actuellement.
Le moustique est un pollinisateur, petite parenthèse, pour rebondir sur vos propos?
Alors, non, pas vraiment.
Ah hein. Oui.
Il y a certains mâles de moustiques qui ne piquent pas, hein, peuvent contribuer, effectivement, hein, mais ce ne sont pas vraiment des acteurs majeurs. Mmh. En fait, le destin du moustique, c'est plutôt de servir de nourriture aux poissons, aux oiseaux et aux batraciens. Et c'est pas mal, hein, comme ça, puisque finalement, il nous assure de la présence de vertébrés qui régulent les populations d'autres insectes.
C'est vrai qu'on entend souvent la question à l'été, mais à quoi ça sert les moustiques? Ben, ils ont un rôle très important, hein, c'est de nourrir d'autres espèces.
Hein. D'autant plus qu'il y en a 3500 espèces dans le monde et seulement 20 qui piquent les humains. Alors certes, qui provoquent des très gros dégâts, mais les autres, par contre, ils sont indispensables.
Philippe Grandcola, vous ouvrez votre livre en écrivant ceci. Si l'on devait trouver une seule caractéristique de nos cultures humaines modernes, ce serait probablement notre déni de la biodiversité. Ce déni, nous en sommes tous responsables d'une certaine manière.
Oui, et puis on l'hérite finalement de nos parents, de nos grands-parents, parce que c'est un déni culturel. Hein. C'est pas, on ne l'a pas inventé, en réalité, il nous est enseigné. Bon, il nous est enseigné parce que les cours de SVT sont plus présents au lycée, parce que finalement certaines disciplines sont vues comme beaucoup plus valorisantes que l'étude de la biodiversité, parce qu'on vit de plus en plus en ville et donc de moins en moins en contact avec la nature, et puis parce que, bien, il faut bien le dire, hein, certains tenants de la société, non des moindres, en fait, prétendent que la biodiversité, c'est un sujet de peu d'importance et puis qui est une sorte de gesticulation médiatique de leurs opposants politiques.
Ouais, vous pensez à qui en particulier ?
Bah, je dirais peut-être pas non pour...
Ah bah vous avez le droit.
Mais oui, il y a toute une partie de la classe politique, de toute façon, très clairement, hein, sur l'échiquier politique français. Et malheureusement, et je le déplore vraiment, hein, moi je l'ai vu en faisant une masterclass à l'Assemblée nationale notamment, évidemment à mesure qu'on va à droite de l'échiquier politique, on a beaucoup moins d'intérêt pour les questions d'environnement. En tout cas, on ne les considère pas sous un angle qui permet un changement, une transition, comme on l'appelle, une transition écologique. Mmh. Et c'est regrettable parce que c'est une opportunité pour tout un chacun, au plan politique, au plan économique, au plan culturel, au plan social, hein, et puis au plan humain tout simplement.
On a construit nos modes de vie en oubliant qu'on reposait justement sur le vivant. Ça, c'est une mémoire qui s'oublie, enfin qui vraiment agit beaucoup pour la non-compréhension du sujet.
Oui, tout à fait. Hein. On se voit comme en dehors de la nature, et même le mot biodiversité qui était fait pour nous réconcilier avec toute la diversité du vivant, bah, pour très souvent, il est vu comme quelque chose d'exotique. Hein. Les forêts amazoniennes, les récifs coralliens. Alors, bien sûr, c'est important, évidemment, hein, mais c'est aussi le coton, le lin qui nous habille, tout ce que l'on mange au cours de nos repas, les 2 millions. Les 2 kilos pardon, de bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Voilà. Et puis malheureusement...
Ça aussi, c'est de la biodiversité.
Ça aussi, c'est de la biodiversité. Et tout est lié, évidemment. Hein. Cette biodiversité intestinale qui nous rend service, qui nous permet de vivre correctement. Hein. On le sait bien, quand on prend trop longtemps des antibiotiques, on a des petits soucis également. Hein. Eh bien, cette biodiversité, elle est dépendante de notre alimentation. Et cette alimentation, finalement, de la manière dont elle est produite, dépend aussi de l'état de l'environnement.
Le mot biodiversité, d'ailleurs, il apparaît quand ?
Alors, il apparaît dans les années 80, 86, pour être précis.
Donc c'est plutôt assez récent.
Et c'est très récent, effectivement. Et je pense que, effectivement, de fait, il n'a pas encore eu le temps de percoler complètement dans la société. Le mot écosystème, par exemple, date de 1935. Et on le voit, aujourd'hui, il est mis à toutes les sauces. On parle même de l'écosystème de l'entreprise, par exemple. Alors que sur biodiversité, on est encore un petit peu en retrait. Mais bon, les sondages laissent entrevoir aujourd'hui que à peu près 3/4, par exemple, des Français ont une appréhension à peu près de ce que c'est que la biodiversité.
Ouais. On manque de mots quand même pour exprimer précisément cette crise que nous traversons aujourd'hui, ou en tout cas pour exprimer le vivant au sens large.
Alors, le problème en fait, c'est que ces mots, ils ont une acception culturelle au sein de nos groupes sociaux, de nos familles, de nos employeurs, de nos amis, etc. Et bien sûr, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Hein. Certains d'entre nous qui nous intéressons à ces questions-là, professionnels ou peu importe, citoyens, voient ces mots souvent et apprennent à les connaître et se les approprient. Mais effectivement, quand on ne s'intéresse pas à un sujet, on en parlait tout de suite, hein, ben on ne les voit pas sur les réseaux sociaux, ils ne passent pas dans
les algorithmes ne nous les proposent pas.
Voilà, et c'est la même chose pour certaines personnes, du fait des clivages politiques, culturels ou sociaux, ben ces personnes-là ne voient pas passer ces questions-là et ne peuvent même pas s'y intéresser, quand bien même elles en auraient envie si elles y étaient confrontées.
Est-ce qu'on peut parler de biodiversité sceptique, comme on parle des climato-sceptiques ?
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on est vraiment dans le déni de science. Hein. Voilà, les fameux auteurs américains qui ont écrit ce livre célèbre qui s'appelle Les Marchands de doutes ont montré qu'on est passé de vendre les doutes aux firmes industrielles, on est passé des cigarettiers aux pétroliers, et maintenant on est effectivement dans la même situation à propos de l'agrochimie ou à propos d'un certain nombre de calculs électoraux. Hein, quand on a un électorat à favoriser qui n'aime pas trop les questions d'écologie, bah finalement on essaye de nier les résultats de la science. Hein. C'est regrettable, hein, c'est du court terme. Évidemment, on comprend bien que quelquefois, sous l'effet de l'exaspération, on n'ait pas envie d'entendre parler tout le temps de ça, mais c'est quand même notre vie qui se joue, et si on ne s'intéresse pas même à notre futur, pensons à celui de nos enfants.
Je parlais tout à l'heure dans le texte de présentation de l'effet pare-brise, qui est assez connu, hein, c'est toujours l'exemple qu'on prend pour parler justement de la disparition et l'effondrement des insectes. Est-ce que ça aussi, ça raconte une histoire de l'amnésie environnementale qui est la nôtre ?
Oui, je pense. Hein, bien sûr, comme vous disiez dans le texte, bien sûr, les personnes qui étaient enfants dans les années 70 peuvent se souvenir de ça, et encore, hein, parce que quelquefois, bon, on ne prête pas forcément attention à tous ces événements, mais bien évidemment, les personnes aujourd'hui qui ont 20, 30 ou 40 ans, bah, malheureusement, dans certains cas, sont même plus en capacité de se rendre compte. Ce sont les spécialistes des pêches qui ont appris ça, qui se sont rendus compte finalement qu'on ne juge de l'état présent qu'à l'aune de ce que l'on se souvient, et au fur et à mesure, donc on oublie ce qui est plus ancien, tout simplement parce qu'on n'en a pas été témoin à un moment donné.
Donc le normal, les normes changent.
Les normes changent, oui, tout à fait. Et malheureusement, ça ne fait qu'accentuer cet effet de biais dont on parlait avant. Et il est médiatique et puis il est tout simplement observationnel. À chaque moment de sa vie, on ne peut pas comparer chaque moment de sa vie à des moments précédents si on ne les connaît pas et s'ils ne sont pas relatés par des médias.
Philippe Grand-Colla, on va écouter l'extrait de ce reportage en plein cœur de la campagne Poitevine, dans la zone Atelier Plaine et Val de Sèvres, où l'on a été témoin de la baisse justement de la biodiversité animale. C'est un reportage de France 24 en mai dernier.
Chaque matin, depuis 32 ans, les oiseaux sont écoutés ici, par des dizaines d'oreilles savantes.
Un faucon cresserelle, là. Il y a une pie et deux faucons. Là.
Postés dans un demi-millier de parcelles d'agriculteurs, ce sont ces scientifiques qui ont révélé dès 2018 l'effondrement vertigineux de la biodiversité.
Les oiseaux sont en déclin d'à peu près 1% par an. Les insectes, c'est plutôt 2,5% par an. C'est absolument considérable.
Et c'est la voix de Vincent Bretagnol, directeur de recherche au CNRS. C'est un collègue à vous, vous le connaissez bien.
Oui.
Donc ces scientifiques ont été les témoins, comme vous d'ailleurs, depuis très longtemps en réalité, des effondrements de population, sans que réellement on en prenne la mesure.
Non, effectivement, parce que quand on parle, ça tient encore à cette représentation culturelle que l'on a de la diversité du vivant. Quand on parle des oiseaux ou des insectes, pour beaucoup... d'acteurs, bah, ça semble être quelque chose certes de regrettable qu'ils disparaissent, mais on ne se rend pas compte que derrière, finalement, il y a au-delà du problème éthique, qui est bien réel, évidemment, il y a aussi beaucoup de problèmes économiques. Une baisse des populations d'insectes, c'est une baisse aussi des productions agricoles quand on a besoin qu'elles soient pollinisées. La baisse des oiseaux, c'est beaucoup d'insectes qui nous posent problème, qui sont plus présents parce qu'ils sont moins prédatés. Donc on a vraiment des effets pervers de ces baisses de populations qui ont été documentées dans plein de pays du monde. En Amérique centrale, le regain du paludisme dans certains endroits parce qu'il n'y avait plus de grenouilles pour manger les moustiques. Ouais. Aux États-Unis, des chauves-souris malades d'une maladie exotique qui n'arrivent plus à supprimer les insectes agresseurs des cultures et on augmente les pesticides et surviennent des maladies dégénératives. Tout ceci a été parfaitement documenté dans des études scientifiques et on en voit les conséquences. Mais évidemment, pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est simplement quelque chose de triste, peut-être un mal nécessaire à produire une nourriture industrielle, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Quels sont les chiffres les plus alarmants aujourd'hui autour de l'effondrement de la biodiversité, s'il fallait en retenir un ou deux qui vraiment, vous, en tant que scientifique, vous préoccupent plus particulièrement ?
Alors, il y a l'embarras du choix, évidemment. On vient de parler des oiseaux, des insectes. C'est vrai dans la plupart des grands bassins d'agriculture industrielle. Mais on pourrait aussi parler, bien sûr, de la perte des récifs coralliens frangeants, des récifs coralliens qui sont à la surface de la mer et qui vont disparaître à l'échéance de quelques décennies.
C'est quand même... en quoi c'est inquiétant ?
C'est un tiers de la biodiversité marine qui part avec, parce que ces récifs, une fois qu'ils sont morts, ils se fracassent avec le ressac, etc. Et les êtres qui sont dedans disparaissent. C'est une protection contre les vagues scélérates et les tsunamis qui disparaissent. Ce sont des ressources alimentaires pour les gens qui habitent à côté qui disparaissent. Et puis c'est aussi tout un lot de services qu'on comprend pas trop bien, de maintien de la biodiversité, de captation des gaz à effet de serre dans l'ensemble océanique. Donc on est vraiment dans des situations où il y a à la fois des pertes éthiques et puis des pertes fonctionnelles terribles qui nous menacent plus ou moins directement, bien sûr.
Philippe Grand-Colla, on verra avec vous les causes et les conséquences aussi de cette crise de la biodiversité. Et puis vous répondrez aux messages, aux questions et aux notes vocales avec l'application Radio France pour nous retrouver et vous entendre.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Qui peut nous dire si un animal ou un végétal qui est considéré comme étant sans intérêt ne peut pas avoir un intérêt pour l'homme ? Ainsi, Imaginez que l'on ait découvert il y a 100 ans le fongicide idéal. Eh bien, si il y a 100 ans, on avait découvert le fongicide idéal, on aurait été débarrassé des moisissures qui, évidemment, sont indésirables dans certains cas. Mais à l'heure actuelle, on n'aurait pas les antibiotiques, car les antibiotiques sont fabriqués à partir de moisissures comme les pénicilliums qui nous donnent la pénicilline. Vous voyez qu'on ne peut jamais prévoir si une espèce animale ou végétale peut être utile à l'homme, et il y a par conséquent tout intérêt à conserver ces animaux et ces végétaux.
Est-ce que cette voix vous dit quelque chose, Philippe Grandcola ?
Écoutez, très honnêtement, je ne la reconnaîtrais pas si vous ne m'aviez pas dit auparavant à qui elle appartenait.
Roger Dajos, c'était un écologue et un entomologiste français, donc c'est un de vos aînés.
Hein. Oui, tout à fait.
Il a joué un rôle important d'ailleurs.
Oui, hein. Oui, effectivement, il a écrit...
Et là, c'est en 1974.
Dans, hein. Ouais, il a écrit des grands précis d'écologie dont, moi, que j'ai consulté assidûment quand j'étais étudiant, ouais. Il y a quelques décennies.
Et vous me disiez qu'il y a 50 ans, 60 ans, en fait, toutes les bases d'alerte étaient déjà posées en réalité. Hein.
Oui, on a eu toute une série de lanceurs d'alerte scientifiques ou non scientifiques d'ailleurs, hein, mais bon, évidemment, tout le monde, beaucoup de vos auditeurs connaissent Rachel Carson, mais en France, on peut citer Jean Dorst ou d'autres scientifiques hein, qui ont écrit tout ça, donc c'était déjà connu, ouais. Et raisonnablement documenté.
Est-ce que cette notion d'intérêt pour les humains, dont parlait Roger Dajos dans cet extrait, est importante, ou est-ce que finalement ce n'est pas encore une façon de tout ramener à nos propres intérêts ?
Je pense qu'il faut avoir un discours équilibré, hein, c'est pas un appel à pratiquer le en même temps qui a mauvaise presse en ce moment au niveau français, hein. Mais c'est vrai que on a besoin à la fois de rappeler qu'on a on doit respecter des êtres vivants qui ne nous appartiennent pas pour des questions éthiques, mais en même temps, évidemment, on doit aussi être conscient de nos dépendances. Ils ne sont pas là pour nous rendre service, mais on en dépend. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, qu'on ne peut pas forcément cultiver toute notre alimentation de manière hydroponique au mépris de la biodiversité.
Hydroponique, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire finalement dans une enceinte artificielle avec une solution nutritive pour les racines des plantes. On fait ça de plus en plus pour les tomates, qui est la dixième production agricole en quantité dans le monde. Tomates, vous pouvez les trouver sur les rayons des magasins à n'importe quelle saison. Elles sont produites de manière complètement artificielle et par voie de conséquence, d'ailleurs, elles ont perdu tout goût et tout intérêt, et une bonne partie de leur intérêt nutritif également. Hein. Donc effectivement, on peut pas, on est bien obligé de se rendre compte qu'on dépend de sols en bonne santé, de forêts en bonne santé, d'océans en bonne santé, à la fois pour réguler le climat, pour nous habiller, pour nous nourrir, pour réguler notre bien-être psychologique également. Donc c'est important de se rappeler à chaque fois des deux arguments, à la fois du respect pour ce qui ne nous appartient pas, pour un bien commun, le bien commun de la biodiversité qu'on n'a pas à saccager. Hein. Moi, dans mon livre, j'ai parlé d'une planète en coloc, parce qu'effectivement, c'est comme dans une coloc. Si vous avez un des colocataires qui fait n'importe quoi, bah, les autres souffrent, hein, et c'est compliqué à gérer, c'est ce qui se passe en ce moment.
Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de colocataires en ce moment qui foutent le bordel dans l'immeuble. Hein.
Oui, quelques... juste... effectivement, pas seulement dans le petit espace français, mais également dans le monde entier. Effectivement, actuellement, on voit qu'il y a probablement un effet de balancier. Alors, on peut espérer que le balancier reparte. Si on est optimiste, on peut penser qu'il va repartir dans l'autre sens quand on s'apercevra que, finalement, ces changements environnementaux nous portent tort et qu'on a un gros bénéfice à les réguler plutôt qu'à continuer à vitupérer.
Est-ce qu'il est juste de parler de sixième extinction de masse, Philippe Grandcola ? Parce que c'est une notion qui est discutée, qui suscite la controverse au sein même des scientifiques. Quelle est votre position, vous, là-dessus ?
Alors, en fait, c'est une métaphore. En réalité, ce à quoi on est confronté, c'est une crise d'effondrement dans les populations. Et quand les populations s'effondrent de manière trop importante, il n'y a plus assez de natalité pour compenser la mortalité, bah, les espèces disparaissent. Donc, ça, c'est déjà arrivé hein, pour un certain nombre d'espèces durant le temps humain relativement récent, depuis la Renaissance. Par exemple, on sait qu'il y a 7% des mollusques qui ont déjà disparu dans le monde. C'est énorme. Et puis, toutes les autres espèces qui se portent mal, alors si on est optimiste et qu'on voit les courbes descendantes de leur population, on pense que peut-être on va réussir à remonter la pente. Et si on est pessimiste, ben on voit qu'elles descendent en direction de l'extinction. Et effectivement, ce constat peut amener à la prédiction d'un risque de crise d'extinction qui est déjà très bien entamé. C'était le constat de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Donc, il souffre pas pas vraiment de controverse.
Mais justement, la précédente grande extinction, c'était celle des dinosaures, hein, en tout cas de la biodiversité autant des dinosaures. Oui. Est-ce que c'est comparable avec ce qu'on vit aujourd'hui entre cette météorite qui a vraiment décimé une part très très importante du vivant et aujourd'hui ce que nous vivons nous-mêmes sur cette planète?
Je pense que c'est une métaphore qui est un peu justement trompeuse. Hein, déjà parce que quand on parle de la crise crétacé-tertiaire, on se dit bah, finalement s'il y a une crise aussi grave que ça et que la biodiversité a survécu, c'est que c'est pas si grave. Mmh. En réalité, on n'y était pas. Si on y avait vécu à ce moment-là, on serait probablement disparu nous aussi. Donc il y a déjà un aspect de un peu trompeur sur la gravité de la crise, puis après sur la cinétique, c'est très différent. Bien sûr, on pense à la météorite, mais les dinosaures, le déclin des dinosaures, ça a duré 1 million d'années.
Oui.
Aujourd'hui, on est sur une cinétique pour une partie de la biodiversité qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est un paradoxe. Hein. On est dans une situation aujourd'hui où les pressions sont différentes, les pressions sont beaucoup plus fortes d'une certaine manière, beaucoup plus diverses qu'une simple météorite.
Ah bon ? Nos pressions aujourd'hui humaines sont plus fortes qu'une météorite ou des volcans, parce que c'était aussi ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu que ça, il y a aussi une crise volcanique très importante.
Tout à fait. Ben effectivement, on a des pressions très fortes aujourd'hui. Hein. La masse des constructions humaines qui dépasse la masse de tout le vivant sur Terre, la masse de plastique qui dépasse la masse des animaux sur Terre, les forêts qui ont diminué de 30% depuis la Renaissance, les zones humides de 3/4, le monde sauvage hein, qu'on appelait de nos voeux à être exploré. Moi, quand j'étais enfant, ce monde sauvage-là n'existe plus vraiment. Hein. Mm-hmm. Et pour s'en convaincre, on peut regarder par exemple, la manière dont les affluents de l'Amazone étaient à sec ces derniers temps, ou la manière dont la forêt des Nouvelles-Galles du Sud en Australie a brûlé il y a quelques années sans qu'on puisse l'arrêter. Voilà, on est déjà dans un monde qui ressemble à une mauvaise dystopie, hein, mais à travers le flux des événements médiatiques, finalement, on le voit, on est épouvanté, et puis on oublie, et puis on passe à autre chose.
Et même les chiffres ne parlent plus, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a un effet de superlatif et de chiffres de plus en plus importants, et finalement, ça ne dit plus rien à personne.
Non, pour que ça fasse sens, il faudrait que ça soit rapporté à notre vie quotidienne. Hein. Je pense que les chiffres qui font sens aujourd'hui sur la biodiversité, c'est ce qui concerne l'agriculture, parce que ça fait sens de parler de centaines de milliers d'entreprises qui se meurent. Mmh. Ça fait sens de parler des pollutions, ça fait sens de parler de notre régime alimentaire. C'est vrai, quand on parle de la biodiversité exotique, charismatique, extraordinaire, qu'il faut sauvegarder aussi, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très lointain, hein, qu'on voit sur un écran de télé pour la plupart d'entre nous, et c'est pas suffisant pour qu'on se sente vraiment motivé pour faire quelque chose.
Puisque vous parlez d'agriculture, Philippe Grand-Cola, évoquons la loi du plomb sur laquelle vous vous êtes exprimé. Cette loi, ça a été le feuilleton de l'été avec une pétition de 2 millions de signatures. Et puis ce feuilleton va se poursuivre à l'automne. La promulgation par le président de la République en août n'a pas mis fin aux querelles qui opposent donc d'un côté les syndicats agricoles et de l'autre les associations de défense de l'environnement. Un débat doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Évidemment, pour l'instant, on attend le nouveau gouvernement. Pourquoi ce texte, selon vous, illustre un aveuglement politique face à la biodiversité ?
Parce que tout simplement, il ne répond pas d'abord aux besoins des agriculteurs, et puis il prescrit un certain nombre de mesures qui sont toutes totalement absurdes et dangereuses.
Hein. Alors vous pensez auxquelles ? Parce qu'on pense évidemment aux néonicotinoïdes,
bien
mais
sûr.
Il y avait d'autres mesures hein, dans ce
tout
texte
à fait.
De loi.
Ben, les extensions des élevages industriels, on sait tous aujourd'hui qu'ils sont à la base, avec leurs effluents, de tout un tas de problèmes, à commencer par les marées vertes. Il faut savoir que le temps de purge des sols pollués par les effluents des élevages, c'est 30 à 40 ans. Hein. Donc même si on arrête aujourd'hui, on en a pour 30 ou 40 ans de marée verte. Il faut se rendre compte aussi que dans ce texte, il y a la question des bassines. Les bassines aujourd'hui, elles sont presque déjà has-been aujourd'hui, même en termes d'immédiateté.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on a du mal à les remplir. Parce que finalement, même si on a suffisamment d'eau accaparée de manière égoïste pour quelques cultures industrielles, ça ne profite pas du tout aux petits agriculteurs de la région, aux vivriers. Et puis en même temps, très souvent, ça ne suffit pas pour éviter les chocs climatique qu'il y a avec des événements pluvieux extrêmes ou des sécheresses extrêmes à certains moments. Vous avez beau arroser une plante pendant la nuit, un champ pendant la nuit, si en journée il fait 45 degrés et qu'il ne pleut pas, ça ne marche pas. Voilà. Donc on est dans un système qui est mal adapté. Aujourd'hui, au lieu de cultiver du maïs et de l'irriguer de force avec des bassines, il faut accepter une transition. Et la plupart des agriculteurs sont partants pour faire cette transition et il faut les aider. Et la loi du plomb fait exactement l'inverse.
Donc à qui s'adresse cette loi ? À quels agriculteurs ? agriculteurs s'adresse cette loi?
Elle s'adresse à un certain nombre de grands producteurs, hein, puisqu'on le sait, M. Duplomb lui-même le dit.
Le sénateur Laurent Duplomb.
Voilà, les entreprises agricoles disparaissent, elles se concentrent. Aujourd'hui, on a des entreprises de plus en plus grosses, avec de moins en moins de salariés qui cultivent des produits de moins en moins vivriers, hein, du colza pour les diesters et le diesel, de la betterave à sucre pour l'alcool, du blé à l'export en partie pour la nourriture animale, le maïs idem, et finalement de moins en moins de produits vivriers. Aujourd'hui, en France, on n'a pas du tout l'autonomie vivrière minimale. Bon, on n'aura jamais, bien sûr, sauf avec les départements d'outre-mer, avec les bananes, le cacao ou le café.
Oui, mais on exporte énormément quand même. On parle tout le temps de souveraineté,
oui.
Mais on exporte aussi beaucoup.
Oui, tout à fait. Et la surface agricole utile dans le monde, maintenant, elle est finalement, on met en concurrence les fibres pour les vêtements et la fast fashion, les agrocarburants, hein, qui sont un vrai problème et auxquels on devrait substituer évidemment les ENR et les voitures électriques, en complément de ce qui existe déjà, comme par exemple en France, le nucléaire, le parc nucléaire. Et puis, il y a aussi toutes les questions de biomasse pour la méthanisation. Et puis enfin, il reste la portion congrue qui est l'alimentation humaine. Et là, ça ne va pas du tout. On est vraiment dans un système qui ne fonctionne pas, qui marche sur la tête. Et pire encore, les entreprises agricoles ont des difficultés. Il y a des propositions de loi qui ont été déposées pour leur donner des revenus garantis sur un certain nombre de productions. Elles ont toutes été contrariées par les proposants de la loi Duplomb. Donc aujourd'hui, on est dans un système qui va à l'encontre de l'intérêt de la plupart des petits agriculteurs.
Alors les agriculteurs, justement, par la voix de la FNSEA, ceux qui justement sont affiliés à la FNSEA, ont annoncé de nouvelles mobilisations pour le vendredi 26 septembre, pour demander, entre autres, il n'y a pas que ça, hein, mais l'application pleine et entière de la loi Duplomb. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vous les rencontrez d'ailleurs, ces agriculteurs, ou pas?
Bah écoutez, moi j'en rencontre régulièrement, à la fois à travers les médias qui nous invitent ensemble, ou
donc
simplement
dialogue,
dans ma vie
citoyen. Il y a un dialogue
citoyen.
Qui est possible.
Il y a un dialogue qui est parfaitement possible.
Qu'est-ce que vous racontez dans ce cas-là?
Alors, il y a un dialogue qui est d'autant plus possible, par exemple, qu'on a des zones ateliers au CNRS, comme celle dont on parlait tout à l'heure avec mon collègue Vincent Bretagnol, qui dialogue avec des centaines de PME agricoles. Donc ce dialogue, il est vraiment quotidien. Mm-hmm. Évidemment, ces agriculteurs, ils nous font part de leur désespoir d'être considérés comme les fauteurs de troubles, hein, ce qui est bien compréhensible, évidemment, de leurs difficultés quotidiennes, parce qu'ils se trouvent confrontés à des problèmes de prix de vente de leur production, et puis finalement d'arriver à trouver des marchés et de vivre dignement. Bien sûr, d'être aidé, mais être aidé, ça ne veut pas dire pour eux être au crochet, hein, d'un certain nombre de subventions. Voilà. Donc il y a vraiment une difficulté finalement à restaurer une structure qui a été détruite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à restaurer cette structure d'agriculture vivrière dans laquelle des PME peuvent se lancer, mais à condition qu'on les aide et qu'on ne distribue plus les subventions à la taille de l'exploitation, sans parler de la manière dont on cultive à l'intérieur.
Mais ces agriculteurs qui vous disent on ne peut pas faire autrement que d'utiliser de l'acétamipride, par exemple pour les betteraves, qu'est-ce que vous leur dites dans ces cas-là?
Alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, quand on est une PME agricole, hein, des 20 000 PME qui cultivent de la betterave c'est une culture de rente, hein, qui est rentable à l'hectare malgré tous les problèmes, malgré les problèmes d'aléas climatiques qui sont le principal problème ces dernières années, malgré le problème des virus de la jaunisse transmis par les pucerons, qui sont de temps en temps un problème. Et donc évidemment, si on leur dit d'employer des modes culturaux qui sont parfaitement éprouvés, hein, qui ont été testés par l'Institut technique de la betterave, dans lequel on va mettre des plants de compagne avec la betterave pour faire quelque part égarer les pucerons, dans lequel on va mettre des produits répulsifs qui sont beaucoup moins toxiques, qui ne sont pas des biocides, pour essayer aussi, là aussi, de repousser les pucerons. Si on fait de l'assolement d'une année sur l'autre, si on change les parcelles de culture, si on enlève les cordons de déterrage des betteraves de l'année d'avant pour que les virus ne passent pas dans les betteraves de l'année d'après, si on fait tout ça, évidemment, on renchérit le coût de la culture. Hein, donc la question, c'est pas seulement les méthodes culturales, le changement de méthode culturelle qui existe déjà, c'est aussi l'accompagnement financier de toutes ces questions. On ne doit pas laisser les betteraviers aux prises avec les majors sucrières. Ils ne pourront pas s'en tirer, bien évidemment.
Mais ça fonctionne, ces alternatives dont vous parlez, ça fonctionne sur de grandes exploitations?
Ça fonctionne parfaitement sur un paysage agricole. Encore une fois, aujourd'hui, la betterave à sucre Sud, bien sûr, c'est pas sur. Il y a des régions de prédilection pour des raisons climatiques, mais il y a quand même une vingtaine de milliers d'entreprises qui cultivent sur des parcelles qui sont en moyenne de la taille de 16 hectares, avec beaucoup de variations. Donc ça fonctionne parfaitement, ça a été testé. Il y a même des articles scientifiques qui sont sortis pour décrire le résultat de ces tests sur plusieurs années.
Et donc ça quand fonctionne. On nous dit on ne peut pas se passer d'acétamipride, c'est pas entendable pour vous.
C'est pas entendable, à condition que l'État et la communauté européenne jouent leur rôle et aident réellement les entreprises agricoles.
Philippe Grandcola, vous êtes notre invité, on parle de la crise de la biodiversité avec vous, vous répondrez aux messages et aux questions dans un instant.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
La perte de la biodiversité, tout comme le changement climatique d'origine humaine, est un problème d'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle. Les pauvres et ceux des prochaines générations sont les plus vulnérables. Heureusement, les jeunes s'expriment en menant des campagnes partout dans le monde. La lutte contre la perte de biodiversité ne peut se faire que par des actions rapides et transformatrices partout dans le monde. Il est essentiel que les problèmes de perte de biodiversité et de changement climatique soient reconnus comme ayant un impact réciproque, qu'ils soient reconnus comme d'égale importance et qu'ils soient traités ensemble.
À l'instant, le chimiste britannique Robert Watson de l'IBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, traduit par Jérôme Boulet, Philippe Grandcola, vous qui êtes notre invité, autour de ce livre « La biodiversité, urgence planète », c'est aux éditions Talendier. Climat, biodiversité, même combat ?
Tout à fait. En fait, on ne peut pas avoir, et l'IPBES l'a redit à travers le résultat d'une évaluation collective publiée avec des dizaines de milliers d'articles analysés fin 2024, on ne peut pas avoir de politique climat qui tienne sans une politique biodiversité qui tienne, et inversement. Et on ne peut pas non plus avoir une politique de l'eau ou de la santé humaine sans ces deux politiques climat et biodiversité.
Donc ce n'est pas des crises séparées ?
Non, tout à fait. En fait, aujourd'hui, le climat, c'est une des raisons pour lesquelles la biodiversité décline, pas la seule, mais c'est une raison importante. Et puis cette biodiversité qui décline, que ça soit le plancton dans les océans qui s'acidifie, ou les forêts qui disparaissent parce qu'on les coupe ou parce qu'elles brûlent, ben c'est autant de puits de carbone en moins, et donc autant de gaz à effet de serre qui restent encore dans l'atmosphère et qui accentuent encore la crise climatique. Donc on est vraiment, malheureusement, dans un emballement mutuel entre ces deux crises.
Et les écologues comme les climatologues arrivent à travailler vraiment ensemble aujourd'hui ?
Alors oui, effectivement, c'est vrai que le GIEC, la plateforme internationale du climat, et puis l'IPBES, celle de la biodiversité, ont un peu de mal à produire des rapports communs, parce qu'il faut voir que derrière chaque rapport...
Il y a des institutions. Hein.
Voilà, et puis il y a des dizaines de milliers d'articles qui sont analysés par des communautés énormes. Et donc c'est un travail colossal, et c'est déjà compliqué de faire ça à l'intérieur de sa communauté. Si on fait ça entre communautés, ça devient quelque chose de vraiment difficile au plan matériel. Mais il y a quand même eu des ateliers communs entre ces deux plateformes, et qui ont évidemment émis une alarme et des recommandations au gouvernement.
Est-ce que cette crise de la biodiversité, elle est comparable dans toutes les régions du monde de la même manière ou pas ?
Alors, il y a à la fois des différences et des points communs. Partout, on retrouve les mêmes facteurs. Alors, avec quelquefois des cinétiques différentes, des vitesses différentes. La perte d'habitat en Europe, ça continue, bien sûr. Les haies, les zones humides continuent à décliner. Mais ça a commencé très tôt, ça a commencé il y a quelques siècles. Alors que si on prend le bassin amazonien ou le bassin congolais, là, on est en plein dans la perte d'habitat. Ouais. Voilà. Et puis, les pollutions arrivent immédiatement après. L'agrochimie, les 400 000 substances de la chimie de synthèse qui sont déversées dans l'environnement, ça a augmenté à partir du début du XXe siècle. Et là, évidemment, dès qu'une forêt est détruite, c'est pour faire de l'agriculture industrielle, par exemple. Et là, finalement, malheureusement, on est un peu placé dans la même situation que l'on soit au Brésil, en Argentine ou dans l'Union européenne.
Sur la couverture de votre livre, Philippe Grandcola, il est indiqué état des lieux, menaces et solutions. Alors c'est évidemment ce dernier mot qui nous intéresse aussi, puisque vous parlez de changement transformateur comme solution. Qu'est-ce que vous entendez par là alors aujourd'hui ?
Alors là encore, il y a un rapport de l'IPBES et vraiment ça vaut le coup de lire au moins le résumé pour décideurs sur cette question-là, paru également en 2024, qui explique tout simplement qu'on ne peut pas essayer d'optimiser à la marge, d'essayer d'interdire un peu plus de pesticides, d'essayer de favoriser un peu plus des animaux animaux qui ont tendance à disparaître. Non, il faut en fait arriver à changer un peu le système, hein, de manière, avec des actions conjointes entre toutes les parties prenantes. Par exemple, si un excellent exemple, c'est reconstituer des ceintures maraîchères autour des grandes villes. On fait de l'agriculture circuit court, local, bio, subventionné par les agences de l'eau. Ça profite aux municipalités, ça profite aux agriculteurs, ça profite aux agences de l'eau pour qui ça coûte moins que de dépolluer des nappes phréatiques dans lesquelles il y a des résidus de pesticides. Et puis ça profite évidemment aux consommateurs
ouais, quand même,
hein,
ouais.
qui mangent des bons produits locaux. Qui n'a pas envie que ses enfants mangent des produits locaux bio à la cantine de l'école?
Donc des ceintures maraîchères, voilà.
Alors, par exemple, c'est un exemple. Hein. Moi, j'ai eu le plaisir de voir que les ceintures qui étaient reconstituées en France péniblement, hein, parce que c'est un changement structurel important, c'est un changement transformateur. Hein. Il dit bien son nom, on va transformer quelque part la manière de produire notre alimentation. On revient à quelque chose qui existait il y a à peine
un siècle. C'est quoi une ceinture maraîchère? C'est le périphérique des fruits et légumes partout?
Ce sont des zones de culture autour des grandes villes et elles existaient. Alors évidemment, on ne pourra pas nourrir toute la mégapole, métropole qui est pourtant pas très grande, hein, mais la métropole parisienne avec uniquement des productions qui viennent de la périphérie, mais on va déjà contribuer énormément. Et puis c'est encore plus vrai évidemment pour des villes de taille plus raisonnable et ça se passe dans plusieurs endroits en France. C'est aussi une occasion par exemple de donner par exemple à des femmes enceintes des paniers bio, hein, comme le font un certain nombre de municipalités, et de s'assurer ainsi que l'effet des polluants soit beaucoup moins fort sur les enfants. Donc là, à chaque fois, on est dans la transformation, on le voit, toutes les parties prenantes collaborent pour aller de l'avant.
Les changements transformateurs, il y a beaucoup d'autres propositions dans votre ouvrage, je laisse aux auditrices et auditeurs le soin de les découvrir. On passe aux questions tout de suite. Et vos messages. Jackie nous dit ceci, j'imagine que les répulsifs évoqués pour remplacer les phytosanitaires, vous en parliez tout à l'heure avec la betterave, sont des produits chimiques. Ont-ils été testés pour leur toxicité, les résidus?
Alors effectivement, tout à fait, hein, il n'y a pas de produit qui ne soit pas chimique à la surface de la Terre. La différence, c'est que certains d'entre eux ont été fabriqués au laboratoire et que leurs propriétés sont différentes. Mmh. Quand on fabrique un produit insecticide, herbicide ou fongicide, c'est pour tuer. Et quand on fait ça, on utilise souvent des fonctions essentielles des êtres vivants. Donc si on tue un champignon, malheureusement, il est bien rare que ça ne nuise pas aussi au métabolisme humain ou des insectes et vice-versa. Les répulsifs ne sont pas faits pour tuer, ils sont faits pour repousser. Donc déjà, physiologiquement, du point de vue de leur constitution, ils ont moins de chances d'être toxiques. Mais bien évidemment, ça doit être testé en amont.
Et c'est un produit qui va avec d'autres actions, vous l'expliquiez très bien tout à l'heure. Ce n'est pas juste un produit faire le job. Emmanuel nous dit, heureusement, nous avons encore des endroits où les citoyens et citoyennes se battent pour la biodiversité. Des agriculteurs et habitants de mon village se sont battus pour le remembrement en 1980. Et maintenant, nous sommes reconnus pour nos haies bocagères, nos pare-brises collectionnent les insectes. Et de temps en temps, nous revoyons les vers luisants et hannetons. Le combat continue, dit-elle.
Oui, effectivement, c'est ça qui est, dans une certaine mesure, malgré tout, rassurant. Hein, c'est qu'il y a des personnes qui ont parfaitement pris conscience de ça. Mmh. Et là, c'est typiquement un exemple de changement transformateur. Des administrés, une commune, des agriculteurs qui se mettent ensemble pour aller de l'avant.
Un message moins joyeux de Martine. J'habite dans une jolie vallée sévenole, loin des villes et villages. Depuis une quinzaine d'années, j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins d'insectes. Ça ne fait que s'accentuer. Cette année, ce fut le pire. Pas un frelon, pas une guêpe, très peu de papillons, une ou deux cigales, pas de grillons le soir, pas de sauterelles. On a l'impression d'une vallée maudite. Et cet été, pas un chant d'oiseaux. Je suis désespérée, dit-elle. C'est vraiment le printemps silencieux, hein, ou l'été silencieux, d'ailleurs.
Oui, on y est, hein, et on n'a pas du tout retenu les leçons, finalement, des alarmes qui ont été lancées il y a quelques décennies. Dans lesquels on parlait par exemple de l'effet du DDT, hein, un insecticide organochloré qui date déjà. Hein.
Et enfin, Gilles nous dit, comment légiférer contre le transport des espèces exotiques?
Alors c'est compliqué, parce que les espèces exotiques, elles vont de pair avec l'augmentation de nos transports, 1000% en 50 ans. Mmh. Et donc évidemment, ce sont des passagers clandestins la plupart du temps. Hein. Donc on fait des contrôles, il y en a énormément, hein, des contrôles douaniers, des contrôles sanitaires. Et puis surtout, là, et c'est là peut-être où le bât blesse surtout, c'est au moment de l'éradication des têtes de pont. Le frelon asiatique, il y a 20 ans, on aurait pu empêcher qu'il s'établisse en Europe. On a attendu 20 ans pour produire une loi au Sénat. La même chose aujourd'hui avec des fourmis invasives qu'on trouve dans le sud de la France pour lesquelles, à ma connaissance, aucune collectivité ne fait rien.
Et c'est trop tard aujourd'hui ?
Et c'est peut-être pas encore trop tard, donc faisons attention à ce type de problème quand il commence.
Merci Philippe Grandcola. La biodiversité urgence planète, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.